Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Alors je vous invite à prendre le livre que jamais personne n'a pu détruire, parce que Dieu l'a gardé. Et pourtant, il y en a qui ont essayé, mais Dieu l'a gardé. Nous avons même cette Bible dans notre langue actuellement, donc je vous invite à l'ouvrir dans le prophète Ésaïe. Nous lirons trois textes, le premier dans le prophète Ésaïe, ensuite Jérémie, et nous arriverons dans le texte de la prédication dans Marc. Donc Ésaïe 56. Ésaïe 56, les versets 1 à 8. « Ainsi parle l'Éternel, observez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice de se révéler. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils d'Adam qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne pas le profaner et gardant sa main de toute œuvre mauvaise. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera sûrement de son peuple. » Que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec. » Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui gardent mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui demeureront fermes dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un renom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Oracle du Seigneur, l'Éternel, lui qui rassemble les bannis d'Israël, j'en rassemblerai d'autres avec les siens déjà rassemblés. Et nous allons dans Jérémie 7, les versets 1 à 11. Donc on voit Jérémie qui déjà va avertir le peuple dans le temple, si vous voulez, à une époque, donc à l'époque de Jérémie. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là proclame cette parole. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui entrez par ses portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos vies et vos agissements, et je vous laisserai demeurer en ce lieu. Ne vous confiez pas en des paroles trompeuses en disant, « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Si vraiment vous réformez vos voies et vos agissements, si vraiment vous faites droit aux uns et aux autres, si vous n'opprimez pas l'immigrant, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous ne ralliez pas à d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici que vous vous confiez en des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi ? Voler, commettre des meurtres et des adultères, faire de faux serments, offrir de l'encens à Baal, vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas ? Puis vous venez vous placer devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites « Nous sommes délivrés » et c'est afin de commettre toutes ces horreurs. Est-elle à vos yeux une caverne de brigands, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ? Je le vois moi-même. Dit l'Éternel. Et nous allons dans l'Évangile selon Marc, et nous lirons au chapitre 11, les versets 11 à 26. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Mais s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit « Que jamais personne ne mange plus de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Il les enseignait en disant, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchèrent les moyens de le faire périr. Ils le craignaient parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Une maison vide ou mal habitée ne peut pas être un bon lieu d'accueil. C'est pourquoi nous comptons sur l'habitation du Saint-Esprit dans nos vies pour accueillir la parole de Dieu, qui puisse agir dans nos cœurs pour cet accueil ce matin. L'évangile selon Marc, que j'aime appeler le journal de Pierre, écrit par Marc, nous amène aujourd'hui dans une action énergique de Jésus dans son ministère. Il va s'occuper de la maison de Dieu, qui devrait être une maison de prière pour toutes les nations. Marc est d'ailleurs le seul ici à souligner que c'est une maison de prière pour toutes les nations dans ce temple. Jésus, en fait, annonce le jugement du lieu où le peuple choisi par Dieu dans l'Ancien Testament était censé manifester son adoration, son ouverture aux nations qui cherchent Dieu et vivre la sainteté selon le Lévitique. Ce peuple était une ombre du peuple à venir qui est en Christ. Le lieu lui-même, le temple, était l'ombre d'un temple à venir que Jésus a annoncé à la Samaritaine en Jean 4, sur lequel nous avons médité dans les versets des dernières semaines qui parlaient de la métaphore du temple qui représente l'Église, l'édifice construit par Christ dont il est la pierre d'angle et la pierre de voûte. N'oubliez jamais que l'Ancien Testament est une ombre des choses à venir. L'Ancien Testament est une ombre des choses à venir, pas la réalité. La réalité est en Christ. La réalité est en Christ et tout l'Ancien Testament pointe vers lui. Tout l'Ancien Testament pointe vers Christ et tout le Nouveau Testament explique qu'il est le centre de cette réalité. Donc n'oubliez jamais que l'Ancien Testament est une ombre des choses à venir, pas la réalité. La réalité est en Christ, tout dans l'Ancien Testament pointe vers lui et tout dans le Nouveau Testament explique qu'il est le centre de la réalité. C'est la dernière semaine où les sacrifices seront légitimement offerts dans le temple, car ensuite le voile sera déchiré, l'accès à Dieu donné au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Tout sacrifice d'animaux pour le pardon des péchés après la mort de Christ est un acte de rébellion contre l'œuvre du Christ qu'il a parfaitement, totalement accompli une fois pour toutes. Jésus annonce le jugement sur le lieu du culte de l'Ancien Testament qui était une ombre, un type, une illustration du lieu à venir qui malheureusement ressemblait plus à ce que Jérémie dénonçait déjà à son époque que à ce que Ésaïe avait annoncé et qui se réalisera dans la réalité en Christ parfaitement lors de son avènement. Nous sommes entrés dans la dernière semaine de vie de Jésus et nous sommes le lundi, après l'entrée triomphale de Jésus, le jour nommé maintenant le dimanche des Rameaux. Et le premier verset de notre péricope du jour parle de la fin de cette journée. au verset 11, ou plutôt vos Bibles ouvertes dans Marc 11, nous y reviendrons régulièrement, où il est dit, donc ça c'est juste après l'entrée de Jésus à Jérusalem, hein, sur l'Anon, vous vous souvenez de ce jour-là, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les autres. En fait, avant de retourner à Béthanie, qui est son pied-à-terre pour cette semaine de Pâques particulière, hein, où il retournait chaque soir à Béthanie, eh bien, il va observer ce qui se passe dans le temple. Ceci est écrit afin que nous comprenions que Jésus n'a pas agi sur un coup de tête le lendemain, lorsqu'il a initié un nettoyage du temple, qui devait être la maison de prière pour toutes les nations. Jésus était allé en tant que roi entrer à Jérusalem, inspecter en fait ce lieu qui devait être un lieu d'adoration. Jésus, donc le lendemain, dans un premier temps, prépare ses disciples à l'action qu'il va accomplir par une parabole vivante de l'état de la maison de prière. Ce sera notre premier point. Ensuite, Jésus va faire de l'ordre dans la maison de prière. Ce sera notre deuxième point. Et pour terminer, Jésus va donner deux clés essentielles pour vivre la prière. Ce sera notre troisième point. Or, comme d'habitude, nous ne pouvons pas couvrir tous les sujets que nous trouvons dans ce texte ici. Voilà pourquoi je ne parlerai pas de l'humanité de Jésus révélée par sa fin, de l'étude détaillée de la souveraineté de Jésus dans ce texte, que ce texte nous révèle, ou encore de l'explication poussée de chaque détail des actions de Jésus dans le temple, ou encore de l'observation attentive de tous les textes où Jésus parle de l'exaucement de prière. C'est tous des sujets qui sont intéressants, mais que je ne vais pas développer avec vous ce matin. Je vous encourage à méditer ce texte, à chercher à comprendre aussi ces sujets par la suite dans vos méditations. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la maison de prière et ce qui la caractérise. C'est vraiment ça qu'on va prendre aujourd'hui, c'est la maison de prière et ce qui la caractérise dans ce texte. Or, l'action de Jésus envers le figuier est clairement une illustration, une parabole de ce qui va se passer ensuite. Et le fait que Marc, en fait, l'indique avant et après la purification du temple n'est pas anodine. C'est pour nous aider à comprendre que ça fait partie, en fait, du même enseignement que Jésus voulait donner à ses disciples. Commençons donc par une parole vivante de l'état de la maison de prière. Relisons les versets 12 à 14 pour y entrer. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose, mais s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit « Que jamais personne ne mange plus de ton fruit », et ses disciples l'entendirent. Afin de bien comprendre ce texte, il est utile de savoir quelques éléments concernant les figuiers. Alors en fait, dès que les feuilles d'un figuier poussent, cela annonce l'approche de l'été. J'ai même pas fait de la botanique, j'ai ouvert ma Bible dans Matthieu 24, 32. Puisque là, c'est dit clairement. Le figuier que Jésus rencontre, en fait, est en avance. Parce qu'on est bien avant l'été ici. Il est en avance, car nous sommes au printemps. Il est donc prometteur. C'est comme s'il était un peu avant tout le monde. Et deuxièmement, lorsqu'un figuier produit des feuilles, il produit des petits fruits qui annoncent une bonne récolte à la saison des figues. Ça, c'est une particularité du figuier, qu'en fait, les fruits poussent avec les feuilles. Souvent, on a les feuilles, puis ensuite les fruits. Eh bien, pas chez le figuier. Et donc, ce figuier montre une apparence différente de la réalité. Celui qui voit un tel figuier s'attend à y trouver des fruits annonciateurs d'une belle récolte pour la prochaine saison des figues. Jésus, ici, condamne ce figuier car il n'a pas donné ce qu'il promettait. Il condamne ce figuier parce qu'il n'a pas donné ce qu'il promettait. En quelque sorte, il ne vivait pas ce qu'il présentait. Il ne vivait pas ce qu'il présentait. Celui qui le regardait était trompé par les apparences. Celui qui le regardait était trompé par les apparences. Donc Jésus condamne ce figuier car il n'a pas donné ce qu'il promettait. En quelque sorte, il ne vivait pas ce qu'il présentait. Celui qui le regardait était trompé par les apparences. Alors Jésus, par cette parabole, nous prépare à comprendre le cœur du problème de la maison de prière. C'est un lieu qui, par ces nombreux sacrifices, par le nombre de personnes qui s'y pressent, par l'activité que l'on y trouve, fait penser qu'il y a du fruit d'une vraie adoration dans ce lieu, des belles feuilles vertes de l'apparence. Mais comme nous le verrons, il n'y a que l'apparence, aucun fruit. Souvenez peut-être de ce texte dans 1 Samuel 16, verset 7. C'était quand le père de David, quand Samuel est venu, puis il s'est dit, ben voilà, il va prendre mon aîné, etc. Et dans ce texte, il a dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mais ne jugeons pas trop vite ce figuier. Hein? Combien souvent nous voulons que les autres aient une image de nous différente de ce que nous sommes vraiment. En fait, c'est un grand avertissement contre une profession de foi vide, contre un christianisme proclamé mais pas vécu. Dire « je suis chrétien » mais agir dans la vie de tous les jours d'une manière identique aux non-chrétiens, c'est être ce figuier. Nous avons des feuilles magnifiques. Comme d'ailleurs Adam hein, qui s'était fait une ceinture de feuilles de figuier après la chute. Mais nous ne pouvons comme lui pas cacher notre péché devant Dieu par des bonnes actions. Tôt ou tard, nos mauvaises actions seront mises à la lumière et il faudra y faire face. Ne cherchons donc pas premièrement ce qui frappe les yeux des hommes, ce qui correspond à la quantité, la grandeur, la beauté des feuilles, si vous voulez, hein. Mais cherchons premièrement ce que l'Éternel voit et aime, un cœur purifié par la repentance et la foi en Christ, ce qui conduira aux fruits qui seront de toute façon accompagnés des feuilles. Imaginez que chaque figuier que nous approchons lorsqu'il a des feuilles porte du fruit. Chaque fois qu'on voit un figuier avec des feuilles, il y a du fruit. Que chaque personne qui dit être chrétienne vive sa foi, ses valeurs, ses engagements, chaque jour. Eh bien, ce sera la lumière portée dans le monde, le sel qui donne la saveur. Et c'est la grâce qui nous fait entrer dans ce chemin. Ce n'est pas le fait qu'on est sans péché. Et les fruits, ce n'est pas le fait d'être sans péché. Les fruits, c'est de les reconnaître, de s'en repentir et de saisir le salut en Jésus-Christ. Voilà les fruits. Il y aura des conséquences à ces fruits, dont les feuilles avec, vous pouvez prendre le fruit de l'esprit dans Galates, etc. Galates 5, 22. Donc imaginez que chaque figuier que nous approchons lorsqu'il a des feuilles porte des fruits. Waouh! Que chaque personne qui dit être chrétienne vive sa foi, ses valeurs, ses engagements chaque jour. Ce serait donc la lumière portée dans le monde, le sel qui donne la saveur. Et c'est la grâce qui nous fait entrer dans ce chemin. Suivons maintenant Jésus pour voir comment il va agir dans la maison de prière qu'il a inspectée le jour avant. C'est notre deuxième point. L'appel à la purification de la maison de prière. Nous relisons les versets 15 à 19. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans la maison du temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Il les enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ?» Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchèrent un moyen de le faire périr. Ils craignaient parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Remarquez ici que Jésus ne chasse pas ceux qui prient ou ceux qui font des sacrifices. Mais non. Mais ceux qui vendent et qui achètent. Dans ce cadre-là. Et en fait, c'est la deuxième fois que Jésus vient faire de l'ordre dans le temple, dans la maison de son père. 3 ans auparavant, Jésus avait chassé les vendeurs et les animaux du temple. Il avait renversé et dispersé l'argent des changeurs et avait dit... C'est dans Jean 2, 16 que vous trouvez cela. « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Il avait donné un avertissement avant le jugement. Ici, quand il arrive, il n'est plus en train de dire « ne faites pas, vous avez fait. » On est dans le jugement ici. Voilà, 3 ans plus tard, il constate que rien n'a changé. le seul lieu du temple ouvert à toutes les nations pour leur permettre de venir prier l'Éternel, est transformé en un marché, alors que la place de marché devrait être en ville. De plus, dans ce marché au temple, les changeurs et les vendeurs abusaient de la situation. En fait, chaque Israélite devait payer un impôt au temple, hein, ce qui est normal. Il faut prendre soin des lieux, il faut s'en occuper et que les personnes qui y travaillent puissent y vivre. Ça, c'est une bonne chose. Mais la monnaie était imposée. On ne pouvait pas arriver avec notre monnaie locale et puis aller payer, non. En fait, il y avait une monnaie qui était qu'on acceptait au temple, qui était unique, enfin c'est une monnaie tyrienne, et chacun devait changer son argent contre la monnaie utilisée dans le temple. Or, des changeurs vendaient la monnaie du temple en faisant un grand bénéfice. Voilà la situation d'abus que l'on trouve ici. Deuxièmement, beaucoup d'Israël vivaient loin de Jérusalem. Ils venaient, donc on était à la période de Pâques, tout l'Israélite était appelé à venir là. Et puis en fait, leur voyage était long, et puis mettre quelques bœufs et agneaux dans leur bagage, c'était pas tout à fait facile. Hein, donc en fait, ils prenaient l'argent avec, ils arrivaient à Jérusalem, et ils achetaient les animaux pour les sacrifices et les offrandes. Et là, les vendeurs profitaient du besoin des pèlerins pour vendre les animaux plus chers, et pour faire de grands bénéfices. Alors vous avez remarqué le point commun de ces deux situations, c'est le profit. C'est l'amour du fric. Et comment est-ce qu'on appelle l'amour de l'argent dans la Bible? C'est le dieu Mammon. Hein? On pourrait dire que Mammon, le dieu de l'argent, avait pris place dans le temple et personne ne semblait voir le problème. Personne ne semblait voir le problème. Les principaux sacrificateurs qui devaient maintenir l'aube dans le temple ont une réaction qui montre que leur cœur est attaché à Mammon. Donc Mammon, le dieu de l'argent, avait pris place dans le temple et personne ne semblait voir le problème. Les principaux sacrificateurs qui devaient maintenir l'ordre dans le temple ont une réaction qui montre que leur cœur est attaché à Mammon. Ils ne veulent pas faire de l'ordre, ils cherchent plutôt un moyen de faire mourir Jésus au lieu de transformer cette caverne de voleurs en une maison de prière. Ça va, vous comprenez le contexte là? Il y a encore une chose, peut-être que vous n'avez encore pas vu, comme moi c'est en l'étudiant que je l'ai vu ici, c'est que Marc indique encore que Jésus ne laissait personne transporter des objets à travers le temple. Pourquoi cette remarque? Eh bien en fait, le temple était devenu un raccourci d'une partie de la ville à l'autre. Hein? Et en fait, les gens, au lieu de contourner le temple, passaient au travers du temple. Bah ouais! Je veux dire, et c'est comme si des gens passaient au travers de la maladière, au milieu de la pelouse, pour passer du lac à l'hôpital, pendant les entraînements ou même pendant les matchs. C'est impensable. Et pourtant, au temple, ça se faisait. La maison de prière, aujourd'hui, est le temple du Saint-Esprit, qui se manifeste en deux manières. En fait, chaque chrétien est une habitation du Saint-Esprit. Et chacun donc va regarder dans son cœur s'il n'a pas une place de marché au dieu Mammon. Et se demander si la place qui est réservée pour Dieu, ou même pour l'accueil des nations, n'est pas utilisée égoïstement. Le temple, d'une deuxième manière, c'est chaque église locale qui forme avec tous ses membres une habitation du Saint-Esprit, un temple dans lequel il est bon d'enlever toute prise du dieu Mammon, et de laisser la place à tous ceux qui veulent venir prier l'Éternel. Imaginez nos vies libérées de tout désir de profit personnel égoïste. C'est magnifique. J'espère que ça ne soit pas seulement de l'imagination, que ça soit un but, un désir. Donc imagine nos vies libérées de tout désir de faire du profit personnel égoïste et nourrissant notre orgueil. Imaginez l'Église libre de toute tentation de se replier sur elle-même et de ne rechercher que son bien-être et son profit. Imaginez, c'est l'accueil, c'est la joie de voir l'œuvre de l'Évangile. C'est la grâce qui nous fait entrer sur ce chemin. Le lendemain, Jésus, avec ses disciples, passe à nouveau à côté du figuier. Mais là, il ne fait plus une bonne impression, ce figuier. Il est tout sec. Et Pierre en est marqué. Prenons quelques instants maintenant pour écouter Jésus donner deux clés essentielles pour la prière, d'ailleurs à vivre dans la maison de prière. Donc relisons les versets 20 à 26 de Marc 11. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Deux clés de la prière sont résumées en quatre mots par Jésus. Donc les deux clés sont résumées en quatre mots. Les quatre mots sont ceux-ci, « Ayez foi en Dieu ». C'est bon, on a fini le point. Non, non. « Ayez foi en Dieu ». Ça, c'est quatre mots qui résument quelque part les deux clés qu'on va voir. La première clé est la foi qui découle de la confiance en Dieu. La foi qui découle de la confiance en Dieu. Donc la deuxième clé, nous le verrons tout à l'heure, donc c'est le pardon qui découle de la foi au pardon de Dieu. Voilà pourquoi « Ayez foi en Dieu » résume ces deux choses. Donc la première, c'est la foi qui découle de la confiance en Dieu. Or les versets 23 et 24 ont fait couler beaucoup d'encre et fait naître toutes sortes de théories, allant jusqu'à pratiquer la pensée positive pour obtenir ce que l'on veut. Ben ouais, puisqu'il est dit que tout ce que tu crois vraiment, etc., tu l'auras, ben voilà, faut y croire, puis on l'aura. Mais c'est oublier deux choses. C'est qu'au verset 23, Jésus ne parle pas d'une situation littérale. Mais il fait allusion à une métaphore courante à cette époque, celle de déracineur de montagne. Les déracineurs de montagne, ça désignait les chefs spirituels capables de résoudre des problèmes difficiles et qui semblaient réaliser l'impossible. D'ailleurs, Jésus n'a lui-même déplacé aucune montagne, physiquement. Et pourtant, il a résolu tous les problèmes difficiles qui lui ont été posés. Deuxièmement, au verset 24, Jésus ne parle pas des demandes égoïstes qui serait contraire à ce qu'il vient de dire et de faire dans le temple. Jésus ici souligne l'importance d'une confiance absolue en Dieu et de l'assurance de la capacité de Dieu d'agir en toute situation selon sa volonté qui est la meilleure. Voilà, quand il est dit ici, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. Je vous ai dit en début de prédication que je ne pourrais pas prendre le temps de voir tous les textes qui parlent de ça. Mais reprenez les autres textes. C'est très très riche. Mais cette première clé part de l'attitude dans la prière, une attitude de confiance. Celui qui prie sans avoir confiance, mais qu'il arrête de prier. Je veux dire, pourquoi vous demandez à quelqu'un qui vous dit qu'il va de toute façon pas vous le donner? Vous vous moquez de cette personne en fait. De Dieu, c'est pire encore. Cette première clé, c'est l'attitude de confiance, confirmée par Jacques quand il parle de demander la sagesse, souvenez, hein, qu'il la demande sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Non, on a confiance en Dieu. Alors on n'a pas confiance en nous, c'est-à-dire parfois on demande des choses, on ne sait pas si c'est exactement ce qu'il veut. Ok, on peut ne pas avoir confiance en nous, mais en Dieu, par complètement confiance. Et la deuxième clé est le fruit d'une relation réconciliée avec Dieu par la foi. On a parlé de fruit dès le départ avec le figuier, on y revient, tout est lié en fait. La deuxième clé est le fruit d'une relation réconciliée avec Dieu par la foi. Celui qui a reçu le pardon de Dieu, qui est réellement conscient du pardon qu'il a reçu, va le donner aux autres. Celui qui a reçu le pardon de Dieu, qui est réellement conscient du pardon qu'il a reçu, va le donner aux autres. C'est d'ailleurs un bon test pour savoir où vous en êtes. Si vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un de manière prolongée, c'est que vous n'êtes probablement pas en Christ. Celui qui est en Christ reçoit tant de pardon qu'il en déborde. Le pardon que l'on accorde démontre ce que l'on a compris du pardon de Dieu. Vous pouvez proclamer tout ce que vous voulez. Vous pouvez même faire des témoignages sentimentaux, très touchants. Si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas croyant. Et c'est le jugement de Dieu qui vous attend. Pour lire Matthieu 6, 14 à 15 aussi. Si vous êtes dans cette situation de non-pardon, je ne peux que vous supplier de reconnaître votre péché. Priant que l'Esprit de Dieu agisse en vous pour se repentir et saisir la grandeur, la profondeur, la puissance, la libération du pardon de Dieu grâce à l'œuvre de Christ à la croix et le transmettre à votre tour. Celui qui ne pardonne pas n'a pas reçu le pardon, je suis désolé. Parce que le pardon de Dieu est tellement grand qu'il va être donné aux autres. J'ai pas dit que c'était facile. Parce qu'il y a des choses qui sont parfois profondément ancrées en nous, c'est vrai. Mais est-ce que c'est facile de combattre le péché? Ayez foi en Dieu. Veut donc dire placer totalement sa confiance en lui, puiser en lui ce que nous donnons aux autres, particulièrement le pardon. On ne l'a pas en nous, mais nous pouvons le puiser en lui parce qu'il nous le donne dans cette réconciliation que nous avons avec Christ. Jésus maudit un figuier qui ne portait pas de fruits. Il appelle au nettoyage du temple. Et enfin, il a donné deux clés pour la prière à ses disciples. Alors, qu'allons-nous retenir ce matin? Qu'allons-nous chercher à mettre en pratique? Parce que si vous venez chaque dimanche au culte, vous écoutez, vous repartez sans avoir l'idée de mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous enseigne, alors repentez-vous. C'est pas comme ça qu'on doit vivre. C'est qu'est-ce qu'on veut mettre en pratique. Donc ben voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en pratique. Bon, je vais vous donner quelques idées, vous prendrez celles que vous voudrez. En reprenant ce qu'on a vu ce matin, premièrement, rechercher des fruits et non des feuilles, qui viendront toutes seules avec les fruits. C'est-à-dire veiller sur notre cœur et non notre image, si vous voulez un élément. Deuxièmement, chérir notre maison de prière. Notre maison de prière personnelle et communautaire, en priant pour de vrai et en chassant tout ce qui pourrait nous en détourner. Troisièmement, avoir une belle place propre pour que les gens de toutes les nations puissent être accueillis dans le temple de Dieu en Christ. Puisque là, c'était le bazar dans le temple. Les gens de toutes les nations, c'est le seul endroit qui pouvait être dans le temple, c'était le bazar. Avec ses changeurs, ses vendeurs, etc. Donc avoir une belle place propre pour les gens de toutes les nations dans le temple de Dieu en Christ, donc dans nos vies et dans l'Église. Quatrièmement, prier avec une confiance absolue et totale en Dieu, cherchant à demander ce qui lui plaît. Et cinquièmement, saisir le pardon de Dieu pour le transmettre autour de nous, afin que la grâce soit une réalité en Christ. Et si vous avez du mal avec le pardon, avant de vous forcer à pardonner, arrêtez-vous et allez étudier qu'est-ce que le pardon de Dieu? Comment Dieu vous pardonne en Christ? C'est la clé. Ne cherchez pas à vous forcer. Allez vous abreuver du pardon de Dieu. Une maison de prière qui porte des fruits, consacrée à Dieu, ouverte aux autres, dirigée vers Dieu, remplie de grâce, c'est ce que je nous souhaite à chacun. Une maison de prière qui porte des fruits, consacrée à Dieu, ouverte aux autres, dirigée vers Dieu et remplie de grâce, c'est ce que nous désirons vivre. Et je vais encore prier que Dieu nous l'accorde. Prions. Éternel notre Dieu, ta parole est puissante et tes gestes sont puissants aussi. Ce figuier maudit, qui pouvait sembler distant de ce que nous vivons, nous devient très proche. Et nous pousse, Seigneur, à venir vers toi et te demander pardon. Pour toutes les fois où la recherche de l'image de ce que les autres pensent de nous a été plus importante que la pureté de notre cœur, que la sainteté vécue, que l'obéissance à ta parole. Oh, garde-nous, Seigneur, garde-nous de nous égarer dans le paraître qui va faire un grand fossé entre ce que nous croyons et ce que nous sommes vraiment. Permets, Seigneur, que nous puissions chaque jour nous rencontrer, que chaque jour les frères et sœurs dans la foi puissent nous retrouver là où nous sommes et dire oui, il vit comme un chrétien. Oh non, il n'est pas parfait, c'est vrai, moi non plus. Mais il cherche à grandir. Il va vers le Seigneur lorsqu'il voit sa faute. Il se réjouit de l'œuvre de Christ, saisit son pardon et le donne autour de lui et autour d'elle. Seigneur, j'aimerais te prier que nous puissions entrer dans cette notion comprise de ce qu'est la maison de prière, telle que toi tu la veux. Rempli de confiance, heureux de ton pardon, vivant la grâce, non pas juste en la prenant pour nous-mêmes, pour un profit personnel. Oh non, Seigneur, parce que nous voulons la partager et pardonner à tous ceux qui nous font du mal, comme tu le fais pour nous. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.